Est-ce que vous avez perdu le plaisir de recevoir des cadeaux ou des jeux le soir de Noël ?
La semaine dernière, on s'est organisé pour réaliser un Père Noël secret avec nos amis. Aucun de nous ne connaît la personne qui lui offre des cadeaux. Pour retrouver le plaisir de recevoir des jouets que l'on avait quand on était petit, même Noël a été revisité.
Grandir, un podcast par Radio Campus Angers, produit par Martin Collat et Mathéo Mousseau.
Épisode 1, les jeux.
On s'est rendu compte qu'en grandissant, la place du jeu était nettement revue à la baisse. Le rapport que l'on a au plaisir de jouer s'est totalement transformé. Alors, on a essayé de comprendre pourquoi les adultes n'y accordent plus une grande importance. Dans tous nos épisodes, on sera accompagné par nos meilleurs potes. Autour de la table, il y a Tom, Emilio et Greg. Avec eux, on a commencé par se replonger en enfance.
Ça dépend quelle tranche d'âge, je dirais. Plutôt école primaire, pour partir là-dessus, après, j'imagine. Il y en avait plusieurs, évidemment, le loup touché, qui était assez classique. L'épervier aussi, on en faisait pas mal. Le fille attrape garçon, et inversement. C'était...
Moi, j'ai pas eu ça. Moi, j'étais exclu de ce genre de jeu.
Ah
je
oui.
Ouais. Enfin, j'ai fait 3-4 fois, mais c'est une réexception quand je le faisais. C'était pas...
C'était notre jeu quotidien.
Moi, je voyais les gens faire.
À part l'épervier. Ouais. Moi, c'était pas forcément ce genre de jeu qui venait... En premier, dans ma tête.
Tu parlais des jeux...
C'est vraiment les jeux que, dans un premier temps, je faisais chez moi.
Lego.
Les Lego, les Playmobil.
Les toupies Beyblade. Ça, c'était incroyable.
J'ai pas du tout, moi, non.
T'as pas eu les toupies Beyblade ?
Non. Mais
c'était incroyable.
C'était trop cher. Les
cartes Pokémon.
Cartes Pokémon,
à fond.
Ah, j'ai braqué des gens, moi.
Moi, je me faisais braquer, justement.
Ça a brisé des amitiés, les cartes.
J'étais le king de la cour. J'avais deux classeurs remplis avec des ultra rares. D'ailleurs, je me souviens, petite anecdote, mon frère gardait le classeur avec les cartes stylées, et moi, j'avais les énergies. Donc, les énergies, il y en avait des stylés, mais tout le monde en avait rien à foutre. Du coup, il disait « Ah, c'est toi le classeur avec les cartes de merde ?» Je te demande « Ouais.
» Il y a trois grandes raisons pour lesquelles un enfant joue. On en a discuté avec Maud Pozza, psychologue spécialisée dans le développement de l'enfant et de l'adolescent.
Je dirais que déjà, il y a les jeux un peu, tout ce qui est moteur. Grimper partout, sauter, courir. Alors ça, c'est quand c'est assez libre. Mais après, ça peut être structuré plus en jeu, du loup, etc. Ça, c'est vraiment pour se dépenser. C'est-à-dire que l'enfant, voilà, il a besoin de courir, il a beaucoup, beaucoup d'énergie.
Est-ce que vous faisiez des cabanes, que ce soit chez vous ou à l'extérieur ?
Ah ouais,
ça, j'en faisais tout le temps, partout. C'était incroyable.
En fait, moi, il y avait un truc assez cool, c'est que mon école primaire, il y avait une forêt juste derrière. Et dès que le beau temps revenait, donc ça veut dire début d'année scolaire, fin d'année scolaire, on avait le droit d'y aller. Et du coup, toutes nos récrés, on les passait à faire des cabanes.
Ah, ça, c'est génial.
Et ça, c'était plutôt cool.
Je crois que j'aurais aimé ton école.
La meilleure école primaire. Nous, c'est quand on était en maternelle, nous, c'est au moment de la sieste.
Ouais.
T'avais des tapis par terre pour dormir.
Ouais.
Non. Nous, on se mettait dans les étagères et on mettait un drap au-dessus. C'était notre cabane.
Sacrée cabane.
Une façon différente de faire la sieste.
C'est ça, c'est une autre façon. Mais comment dire, aujourd'hui, tu me remets ça, je fais pourquoi ? Tu vois, pourquoi je peux plus faire ça. On va commencer par là.
Moi, je pense que tu me remets une cabane, je m'amuse encore comme un enfant.
Ouais. Alors,
je me souviens, quand mes parents sont divorcés, du coup, on était quatre enfants dans une chambre. Et on faisait du coup une géante cabane avec toute la chambre. Il y avait vraiment tout, genre... Toute la chambre, c'était une grande cabane. C'était génial. Je pense que je refais ça. Je m'amuse toujours pareil.
Du coup, la semaine prochaine, on fait une soirée cabane.
Soirée cabane.
Allez,
ça part.
Moi, c'était chez mon papy, du coup,
cabane.
Qui avait un très, très grand jardin dans lequel il y avait énormément d'arbres. Et en fait, moi, du coup, mon jeu avec mon cousin quand j'étais enfant, c'était de grimper dans les arbres et d'aller faire des cabanes, en fait. Donc, on découpait des branches parce qu'en fait, on était assez jeunes, mais ça dérangeait personne de nous mettre des couteaux entre les mains pour qu'on puisse tailler nos bouts de bois et faire notre cabane. Du coup, on s'amusait bien.
Je me souviens d'une fois, mon père, il avait découpé l'herbe, il avait fait une sorte de chemin, et à l'intérieur, on avait des tuyaux, enfin, on les avait mis des tuyaux par-dessus, des tuyaux en tissu, tu sais, et c'était incroyable. J'avais dans mon jardin un truc fait pour, j'avais une sorte de petit château, quoi. C'était génial, c'était mon jeu.
Après, il y a aussi beaucoup de jeux de faire semblant, où l'enfant, il aime bien, tout simplement, faire comme l'adulte, par exemple. Jouer à la maîtresse, jouer aux pompiers, toutes ces choses-là. Le jeu de faire semblant, c'est une manière d'apprendre par rapport à ce qu'il voit devant lui.
Vous vous déguisiez ou pas ?
Oh mon dieu !
Alors, oui.
Comment c'est mieux, c'est le plus croustillant, non ?
Ouais, bon, alors... J'ai plusieurs anecdotes de déguisement. En vrai, j'aimais bien me déguiser, c'était plutôt marrant. Je faisais à mon anniversaire, je me souviens une fois, on s'était tous déguisés, je ne sais pas pourquoi. Il y avait une malle et il y avait 36 000 déguisements dedans. Je me souviens du déguisement de Zorro que j'adorais à l'époque. C'était incroyable et j'ai essayé de remettre le chapeau de Zorro que j'avais quand j'étais petit. Ça fait très mal à la tête. C'est pas, ça se remet pas maintenant.
Pourquoi je t'imagine tellement habillé comme ça? Ouais, fait que ça m'étonne zéro.
Je suis zéro.
Mais déjà, c'est la malle à déguisement. La malle à déguisement, c'est
j'avais
quelque
une
chose,
malle,
quoi.
Ouais.
Moi aussi, j'avais ça.
C'est incroyable.
Je sais pas si vous aviez une malle à déguisement, vous aussi, mais.
Exact.
Moi, j'en ai pas eu.
La même.
Détesté.
Ouais. J'avais carrément un tipi. Et du coup, je me déguisais en indien et on mettait un tipi dans.
Ouais, je te vois bien en indien.
Incroyable. Ouais. Et là, le tipi, tu le revois, il fait un mètre de haut.
Exactement. Mais.
T'avais l'impression qu'il était géant quand t'étais petit.
À l'époque, je dirigeais une tribu.
Le troisième truc qui va être utile finalement quand il va jouer, c'est quand il va aussi faire des jeux qui vont lui permettre d'apprendre à vivre ensemble. Donc pareil, quand il va faire des jeux de faire-semblant ou faire des jeux de loup, etc., tout ce que j'ai dit avant, là c'est aussi des moments où il va être avec les autres et du coup il va apprendre les interactions sociales. Il va apprendre, comment faire pour attendre son tour, comment faire pour dire « Ah bah là, c'est à moi, là c'est pas à moi », etc. Donc ça, finalement, ça permet d'apprendre plein de choses, le jeu, et de manière ludique. Donc ça lui apporte du plaisir. Et c'est pour ça qu'il le fait de manière naturelle, en fait.
Vous étiez plus jeu d'intérieur, dans la salle de jeu de chez vous, ou sur des jeux vidéo, ou plus jeu d'extérieur avec les cabanes, tout ça?
Ouais, c'était kiff-kiff, hein. Je pense... Pour ma part, c'était kiff-kiff. Enfin, en soi, je sais pas si le vélo, on peut le considérer comme un jeu.
Si, si.
Mais je passais vraiment tout mon temps dehors à jouer au vélo. Et puis, quand je revenais, soit c'était la DS, soit c'était la PSP après. La PSP, je jouais à FIFA. J'ai jamais aimé FIFA, mais sur la PSP, j'adorais. Donc, je pense que c'était kiff-kiff.
Il y avait Mito, la PSP.
J'avais la PSP.
Mito, un peu.
Non, j'adorais la PSP à l'époque. C'était génial.
Moi, c'était... Ça dépend en quelle période. On va dire période avant collège, plutôt primaire. C'était beaucoup plus de jeux à la maison, ou alors chez les copains, mais à la maison. Et période collège, où on commençait vachement à prendre les vélos, pareil, et aller découvrir un peu notre quartier, les alentours, la campagne, surtout la campagne en fait. Et à pareil, à faire des cabanes, à se balader juste, c'était sympa.
Pas du tout. Moi j'étais cloîtré chez moi, j'avais un frère avec qui jouer tout le temps, donc j'avais pas besoin quoi. Non, il y avait le vélo de temps en temps, mais dans ma cour, en fait. J'avais un grand jardin, j'avais même pas besoin de sortir, quoi. Je faisais des tours de ma cour en vélo, et puis voilà. Et puis la GameCube avec mon frère. Puis avec mon petit frère, quand il avait l'âge de jouer. Puis la DS. J'étais bien matrixé par les jeux vidéo, moi.
Ouais, tu vois, bah pareil, sauf que moi, j'avais pas de frère avec qui jouer. Donc du coup, jouais tout seul pendant très longtemps, genre je dirais jusqu'à 10 ans. Et arrivé à 10 ans, le jeu vidéo de ma vie, Minecraft, où du coup t'as des serveurs avec d'autres gens et tu rencontres d'autres gens dessus, puis je joue avec des potes à ce moment-là, les premiers groupes de potes avec qui on joue, mais souvent cloîtré chez moi, ouais, j'étais pas trop au jeu d'extérieur, un peu insocial comme enfant encore.
Mais du coup, est-ce que vos parents étaient en mode sors dehors un peu, tu vois?
Combien de fois?
Ouais, mais je pense que c'est toujours le cas, peu importe, nos parents. Je sais pas.
Plus maintenant ils ont peur quand je sors limite.
Ah ouais?
Ouais. Bah en fait ils ont tellement été habitués à me voir tout le temps dedans que maintenant ils se disent la tendance elle a changé drastiquement, c'est bizarre presque.
Reviens.
Non mais c'est ça, je pense qu'un peu, je sais pas si, je peux parler au nom de tout le monde mais je pense que c'est un peu ça. Enfin, quand on est un enfant qui est coincé chez lui à jouer aux jeux vidéo, typique genre les jeux en ligne, Fortnite, Minecraft et tout, non c'est plus trop ça mais... Quand t'es parent et que tu vois ton enfant partir, des fois pendant des soirées entières, des fois de même ne pas revenir parce qu'il a dormi chez un pote et qu'il te dit rien, à mon avis, moi ma mère elle a presque plus peur maintenant.
Il y a des jeux, on en a pas du tout parlé, c'est les jeux de société.
Personnellement, ça a pas trop été mon terrain de jeu, les jeux de société. Assez rarement.
Moi, c'est le lien avec mes grands-parents, les jeux de société, Rummy Cube, la belote, mon grand-père qui m'apprend la belote, tu vois. C'est des trucs ancrés, mais j'y jouais pas tellement. Et pour revenir sur ce qu'on disait avant, c'était un peu la porte de sortie pour ma mère qui disait que j'étais addict, parce que je jouais tout le temps aux jeux vidéo, et qui avait pas forcément tort. Mais ouais, genre, jeux de société, pour elle, c'était le moment où on se retrouvait tous les deux, où on faisait une ou deux parties, le labyrinthe.
Labyrinthe, ouais, de...
Oh, j'ai des souvenirs là qui reviennent.
Il y avait le Dominos aussi. Dominos.
Milborn.
Les petits chevaux.
Milborn, ouais.
Les petits chevaux, je kiffais.
Moi, à mon avis, il y a vraiment un basculement au moment de l'adolescence. Dans le sens où, déjà, physiologiquement, à l'adolescence, il y a beaucoup de changements. Il va y avoir peut-être un besoin de se dépenser qui va être moindre. Donc peut-être un moins grand besoin aussi de courir partout, de sauter partout, etc. Qui est naturel. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de jouer. C'est vrai qu'au collège, on voit beaucoup d'enfants qui d'un coup vont arrêter de jouer pour plutôt voilà, parler, faire d'autres activités. Et en plus, à l'adolescence, il y a vraiment ce truc où je veux avoir la reconnaissance de mes pairs. Je ne veux vraiment pas sortir du rang. C'est vraiment important à cet âge-là. Donc c'est vrai que si on a des activités de jeu qui ne sont pas socialement acceptables, très vite, ça peut être compliqué à assumer à cet âge-là. Mais ça ne veut pas dire que les adolescents et les adultes n'ont plus envie ou besoin de jouer. Mais en tout cas, les jeux vont être différents.
Pour mieux comprendre, à ce moment, c'est l'arrivée d'un nouvel intrus dans notre vie. Et on ne sait pas y faire face, c'est le regard des autres. Jouer dans la cour est devenu impossible. C'est pour ça que les adolescents ne gambadent plus en récré.
Quand j'ai eu mon premier vrai groupe d'amis au collège, on se parlait parce qu'on jouait au même jeu vidéo. Et on ne savait parler que de ça. Mais petit à petit, on a fini par délaisser ces conversations pour de nouvelles plus matures selon nous. On commençait enfin à parler de sujets sérieux, et enfin à sortir.
Avec Mathéo, on a été à la rencontre d'Antoine et Olivier, membres de l'association Le Bocal, qui réunit des créateurs et des auteurs de jeux de société. On voulait comprendre avec eux les processus de création et les mécanismes liés au jeu.
Alors le processus de création d'un jeu, c'est assez personnel, hein. Je pense que chaque créateur a un processus différent. Moi, je dirais qu'il y a quand même deux grandes façons de créer un jeu. Il y a une première façon, c'est de partir d'une thématique. Dans mon cas, moi, j'ai créé des jeux à partir d'un accident domestique d'un de mes enfants. Il s'est blessé, il s'est ouvert l'arcade et ça a provoqué l'idée de créer un jeu autour des bobos. Il faut soigner les bobos, donc c'est devenu Doudou Bobo. Et puis, ça peut être ça. Ou regarder un radio réveil et de se dire que ça peut être rigolo de jouer avec des chiffres. Et donc, voilà, on a une thématique. Mais ça peut aussi être un mécanisme de jeu en se disant, bah, tiens, j'aimerais bien créer un jeu où les joueurs vont se passer des cartes et vont avoir un objet caché dans une boîte. Et à partir de ça, on va développer. Mais par exemple, Antoine, il a peut-être une autre façon de voir les choses.
Ouais, moi, je blesse pas des enfants à chaque fois que je crée un jeu. Donc, je dirais qu'il y a quand même une troisième manière qui est le matériel aussi. Parfois, c'est juste une envie d'avoir des dés ou on joue avec des dés puis on en fait une tour et du coup, ça nous donne une idée. Enfin, ça peut être aussi partir du matériel. Mais en fait, le process de création, pour moi, il est le même que dans tous les autres métiers créatifs.
Ce que j'ai compris à la suite de cet échange, c'est que oui, c'est encore possible de jouer quand on est adulte.
D'une certaine manière, les adultes trouvent des alternatives finalement pour continuer à jouer. Par exemple, les adultes vont aller faire des escape games, les adultes qui ont besoin par exemple de beaucoup se dépenser, de grimper, etc., ils vont aller faire de l'escalade. Voilà, ils vont trouver des stratégies pour continuer à combler leurs besoins, puisqu'on a tous des besoins de se divertir, des besoins de se dépenser qui sont peut-être différents de ceux des enfants. Et même, j'ai envie de dire qu'il y a certains adultes qui vont continuer à jouer.
Ce côté, si vous jouez, c'est que vous avez conservé votre âme d'enfant. On a un membre du Bocal qui avait réagi vivement quand un journaliste lui avait dit « Oui, mais si vous jouez, vous avez conservé votre âme d'enfant. » Et il dit « Non, pas du tout. Je joue en tant qu'adulte, papa, professionnel. » Et que « Ouais, non, en fait, mais je ne me considère pas comme un enfant ou un adulte particulier quand je prends le temps de jouer soit avec mes enfants ou avec des copains ou de la famille. »
Même pour toi, Mathéo, t'as dû t'en rendre compte l'autre fois en allant à un salon uniquement dédié aux jeux de société.
Quand je suis arrivé là-bas, en fait, je m'attendais beaucoup à voir des parents emmener leurs enfants et à tester des jeux avec eux, mais j'ai eu beaucoup de groupes d'adultes entre eux, tester plein de jeux très différents, des choses dont on n'a pas l'habitude de voir dans les magasins.
En fait, encore une fois, le jeu de société, c'est un endroit où on peut vivre des émotions. Par exemple, un jeu qui s'appelle Secret Hitler, qui est une espèce de jeu à rôle caché, un peu type loup-garou, mais en mieux, où il y en a certains qui sont des agents du Troisième Reich et d'autres bon, bah, c'est pas un jeu à jouer avec les enfants. Et c'est un jeu où on traverse vraiment des vraies émotions au même titre qu'on regarde la liste de Schindler ou d'autres médias sur le même thème.
C'est juste qu'effectivement, c'est pas la majorité des adultes de notre société. Par exemple, les acteurs, qui sont très bien acceptés dans la société, leur métier, c'est de jouer. Ils vont même le dire eux-mêmes, moi je passe ma journée à jouer.
Là, tout de suite, ça me fait penser à Brigitte Lecordier. Je pense que vous l'avez déjà vu sur YouTube, notamment dans les vidéos de McFly et Carlito. Son métier, c'est être la voix de Sangoku, Sangohan ou encore Oui Oui. Et on ressent vraiment qu'encore à 61 ans, elle s'amuse.
Un bouquin que j'avais lu sur un ludothécaire belge, là, je crois que je l'avais prêté, où il disait en fait, les gens qui disent « j'aime pas jouer », c'est faux, c'est juste qu'ils n'ont pas encore trouvé le jeu qui leur convient. C'est comme dire « j'aime pas regarder des films » ou « j'aime pas écouter de la musique ». C'est quand même assez rare de n'aimer vraiment rien du tout de ce que le cinéma a produit. Bah pour le jeu, c'est pareil. Entre un jeu de dame, une belote, qui sont des jeux traditionnels dans lesquels il y a une certaine ambiance et une certaine culture, ou un jeu qui dure 12 heures avec de la gestion de fou et des figurines grandes comme ça, qu'on a peintes à la main, il y a une palette qui est énorme dans laquelle forcément chacun va pouvoir se retrouver. Et il y a des jeux qui durent 3 minutes et qui sont très fun, et des jeux qui durent 12 heures et qui sont très prises de tête. Et entre les deux, il y a vraiment tellement de choses à explorer et tellement d'expériences à vivre que j'aime pas jouer, ça n'existe pas. C'est juste, bah, j'ai pas encore trouvé le jeu, ou alors je n'ai pas envie de consacrer du temps à ça.
Est-ce que vous jouez encore et qu'est-ce que vous considérez comme des jeux ?
Alors, je joue plus, à part sur téléphone, à Call of Duty, je pense que Tom va me rejoindre.
Oui !
C'est juste ce jeu-là, moi, auquel je joue encore. J'avais une PS3 qui est totalement morte maintenant, du coup j'ai arrêté de jouer. Mais quand je retrouve des fois des jeux, c'est juste Call of Duty et c'est à fond, quoi.
C'est addictif. Ce à quoi je pensais. Maintenant, quand je joue, c'est beaucoup tourné vers les écrans, tu vois. À part parfois, pendant les vacances, je peux faire une partie de Uno ou une partie de cartes avec ma mif, mais autrement...
Je veux dire, maintenant, les fois où on joue, c'est pour boire.
Ouais, et c'est très dangereux.
Ça mériterait bien plus de place que ce qu'on va lui donner. Mais le jeu aussi a ses dérives. Entre amis, par exemple, a-t-on vraiment besoin de réaliser des jeux d'alcool pour s'amuser ? J'ai aussi beaucoup de mal à associer le mot « jeu » à celui d'argent et de hasard. Selon l'Observatoire des jeux, 1,2 million de personnes dites joueuses entretiennent une pratique excessive. Alors oui, nos jeux changent, et dans ces cas précis, ce n'est pas forcément la faute des joueurs. Peut-être que les adultes aussi devraient réapprendre à perdre. Les jeux et l'amusement ont leurs limites. On peut y jouer, mais à quel prix ?
La différence aussi maintenant avec petit, c'est que petit, tu considères les sorties en vélo, tout ce qui va être à l'extérieur comme des jeux, alors qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment... Enfin, on considère plus ça comme des jeux, mais simplement comme une sortie. C'est ça aussi qui change.
Bah déjà, ça devient quotidien maintenant, en fait. Maintenant qu'en fait, on nous interdit plus autant qu'avant de sortir... Avant, c'était quand on sortait en vélo, c'était fou pour nous parce qu'on était loin de nos parents, on nous laissait clairement de la liberté, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, bah, ils sont plus du tout derrière nous vu qu'on est en études et ça devient juste une routine. Donc du coup, on a peut-être des fois moins envie.
Ça s'en rend moins compte, je pense. Quand t'es enfant, la notion de temps libre ou de cours ou de... Enfin, je sais pas, mais à partir du moment où t'as du temps pour toi en tant qu'enfant, tu vas jouer. C'est un automatisme presque. Et en fait, une fois adulte, bah, je pense que quand on joue, c'est juste, on se retrouve. Des fois, même, en fait, ce qu'on, à l'époque, on jouait, et en fait, pour nous, même parler, avoir une discussion intéressante, ça nous procure de la dopamine, et c'est presque comparable au jeu, en fait, maintenant. Ouais. Enfin, y a même blaguer entre potes, c'est un jeu, presque, maintenant. Je pense qu'on n'a plus la même notion du jeu, en fait, quand on grandit.
Bah, le jeu a un peu été transformé en des activités.
J'ai l'impression que l'adulte, lui, il a plus besoin d'un cadre. Pour pouvoir jouer, pour pouvoir s'autoriser même, j'ai envie de dire, à jouer.
On a moins le temps de jouer parce qu'effectivement, la société nous donne moins de temps de jouer parce que dans notre travail, on joue moins quand même aujourd'hui, alors qu'il peut arriver qu'à l'école, on joue. Il y a même des temps dédiés pour ça quand on est enfant. Donc, on a moins le temps de jouer, mais c'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter de jouer.
Je pense surtout à une période, là, le confinement. Moi, je suis redevenu un enfant. À jouer et tout, vraiment comme avant, parce que c'était une phase dans notre vie qui vient de se passer où on était complètement exclus du monde, donc pas de sortie possible, et je suis redevenu un enfant à jouer chez moi sur mon ordi comme quand j'avais 13 ans, tu vois.
Ouais, du coup, c'est les jeux de société qui sont rentrés en jeu avec Plateau, là.
Ouais,
énormément. À l'époque du confinement, du coup, on jouait à tous les jeux de. Les petits chevaux, on les faisait sur Plateau aussi. Ouais. C'est...
te procure une rage intense d'ailleurs ce voilà. jeu. C'est vraiment être masochiste.
4 heures du matin, les yeux rouges. Juste une dernière.
On avait tous la même. C'était... Ouais. En vrai, c'était pas si mal.
Non, moi, je vous abandonnais, je fais des tournois Rocket League.
Ouais.
J'ai repris Minecraft et ça m'a tellement saoulé que ça a fait une semaine vraiment.
Ce qui nous manque pour jouer, c'est du temps. Dans nos vies, on retrouvera sûrement jamais une période comme le confinement qui nous a laissé de si grands moments de temps libre. Entre amis ou en famille, et ce malgré la distance, cette période nous a permis de prendre le temps de jouer.
Et du coup, par rapport à tout ça, vous pensez que c'est encore possible de jouer quand on est adulte?
Oui.
Mais bien sûr. Parce que si on en prend ce qu'on disait tout à l'heure, genre un escape game, un laser game et tout, bah, si c'est des moments de jeu, bah oui, il n'y a pas d'âge pour en faire, tu vois. Puis... Je pense que faire le con dans la forêt... Tout le monde peut le faire, en fait. C'est juste qu'il faut se donner l'envie de le faire.
Ou s'appeler Emilio.
Il faut laisser sa folie parler.
Oui, c'est ça.
C'est ça, c'est important, en fait, même de jouer, peu importe l'âge.
Garder la folie qu'on avait quand on était enfant. Toujours l'avoir.
Ça, mais encore une fois, je pense que t'as encore le regard des gens qui rentrent dedans. Genre, tu peux... Si aujourd'hui, tu joues, enfin, à notre âge, genre, les gens, ils vont faire, mais... Qu'est-ce que tu fais, tu vois? C'est pas ton... Enfin, mais ça derrière toi, tu vois.
Ce que je disais à Martin dernièrement, genre... Tu peux faire n'importe quoi, en fait, tu peux faire ce que tu veux. Tu vas passer pour un con devant des gens, peut-être dans la soirée, mais le lendemain, ils se souviendront plus de toi, mais toi, tu te souviendras de l'action que tu as faite, qui était super marrante, et comment toi, tu l'as vécu, et genre, c'est mille fois mieux que rien faire et avoir peur.
Suivez ce conseil de votre vie.
Je te jure, ils vont fermer les yeux, ils vont oublier instant, et toi, tu te souviendras juste que tu as fait une bataille de journaux.
Voilà, une bataille de journaux. Ça, c'est incroyable.
Non, puis même, sans parler d'une soirée, même dans la rue, les gens, on en croise des centaines par jour, et c'est limite si... Enfin, on les croise du regard, quoi. Ils nous oublient instantanément, donc les gens qui vont faire des micro-trottoirs, les gens qui se dépassent et... C'est une vraie inspiration quand même, et je pense qu'on devrait oser comme ces gens osent, quoi.
Je pense, en soi, tu peux des fois du coup rencontrer des gens qui sont aussi fous que toi, enfin aussi, je parle en tant que moi, parce que...
Tu es fou.
Je suis fou. Non, c'est pas que je suis fou, mais genre, je pense que tu peux rencontrer des gens qui ont une même mentalité que toi, et sur un élan de folie, et tu rencontres des personnes superbes, quoi.
Je pense que quand même la vision de la société sur le jeu, elle évolue. La preuve, c'est que quand on voit le nombre de jeux qui se vendent, la multiplication des boutiques de jeux, de gens qui sont à la recherche de conseils, les sites spécialisés, enfin, et du coup, ouais, j'ai quand même l'impression que c'est quand même bien plus accepté l'idée qu'un adulte il puisse jouer entre adultes ou avec des enfants en recherchant comme tu dis, des émotions ou tout simplement un moment convivial.
On vient de voir que nos jeux sont transformés. On pourrait plus parler d'activité que de jeux à part entière aujourd'hui. Mais où est la place de l'imagination dans tout ça?
Ça rentre beaucoup dans les jeux, je trouve, parce que typiquement, quand tu joues au Playmobil, t'es obligé de t'imaginer un scénario et tout. Donc comment vous le travaillez maintenant?
Ce qui stimule le plus mon imagination personnellement aujourd'hui, c'est la lecture. Tu t'es plongé dans ta lecture et ton imagination, elle travaille, ça tourne. Et c'est ce qui fonctionne le mieux sur moi, en tout cas. Je me suis lancé dans des lectures d'enfants récemment. Donc, en étant enfant, je lisais vraiment beaucoup de lectures fantastiques. Et ça m'a replongé dedans, mais d'une puissance que je soupçonnais pas du tout. Et c'était vraiment puissant et agréable. C'était cool.
Moi, du coup, je dirais que c'est la musique. Vu que j'écris et tout, donc surtout je m'inspire des gens qui m'entourent, des gens que je rencontre et tout. Je pense que cette imagination elle est toujours développée. J'ai toujours besoin d'écrire. Il n'y a pas une semaine où j'écris pas. Du coup, voilà. Mais aussi en marchant dans la rue, l'imagination vient.
Les pensées, je pense.
Les pensées,
ouais. Je sais pas si tu me rejoins là-dessus, mais l'observation, observer. Plein de choses, des moments où on phase, enfin, je parle pour moi, mais les moments où je phase, pardon. Ouais. C'est les moments qui sont les plus riches en imagination, on va dire. C'est là où, si par exemple je réfléchis sur un projet, là c'est un peu bateau parce que je relis ça à l'art. Si j'ai un projet par exemple, c'est mes moments où je vais penser qui vont être les plus productifs. J'aurais pas besoin de me mettre devant un PC et faire des trucs et tout. Non, faut que je réfléchisse là-dessus.
Ouais, enfin, c'est vraiment l'imaginaire, je le travaille que quand je suis seul, tu vois. C'est plus dur de le travailler quand t'es à plusieurs.
Je pense après, quand t'es à plusieurs et que tu reviens solo, tu t'inspires du coup de ce que t'as vécu avec, avec, donc oui, c'est solo pour la plupart.
C'est vrai que c'est, bah, surtout pour vous deux, c'est pas mal relié à l'art, quoi.
Ouais.
Et moi, je sais que je le trouve aussi pas mal dans la volonté de curiosité, tu vois. Mmh. Genre, ça me fait me perdre dans mes pensées et après, je trouve plein de trucs.
Moi, c'est vraiment rencontrer des gens dans la rue. C'est un truc tout, ouais, con. C'est un jeu que je me fais avec moi-même. Je suis un peu fou. Je vois quelqu'un passer en face de moi et je m'imagine juste genre la vie de cette personne. Comme ça. Genre elle va passer en face de moi et je me dis, putain, elle doit avoir genre 5 chiens qu'elle doit promener genre toute la journée et ses chiens ils sont en jetpack. Genre, je pars dans des histoires, mais genre complètement folles et complètement connes. Mais juste, c'est comme ça je travaille ma créativité, tu vois. Des bons moments de journée, c'est rencontrer des gens et imaginer que leurs chiens ont un jetpack.
Ouais. T'es fou aussi.
Je crois que je suis un peu malade.
Au final, je crois qu'on s'amuse toujours sans forcément parler de jeu. Même en réalisant ce podcast, on prend un plaisir immense que l'on pourrait associer à une aventure, par exemple. Puis en faisant ce projet, on imite forcément des gens qui en ont fait avant nous. On a également pu voir qu'il était encore possible de jouer au sens propre du terme. Il ne vous reste plus qu'à trouver le support qui vous plaît. La seule vraie limite qui s'impose à nous, en fait, c'est celle du temps. On ne priorise pas l'amusement alors qu'on le devrait. C'est important de jouer, de se divertir. Je suis sûr que vous avez du temps.
Grandir, un podcast par Radio Campus Angers, produit par Martin Collat et Mathéo Mousseau.